ossements desséchés, par Tony Alamo. Les prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel, reçut de Dieu une vision. Il vit une vallée d'ossements desséchés, représentant la mort spirituelle d'Israël et du monde. La vision annonçait la première venue du Christ, sa prédication des évangiles et ce qui en résulta. La première résurrection d'entre les morts pour atteindre la vie éternelle pour tous ceux qui croient en la parole du Seigneur. Dieu dit à Ézéchiel, « Fils d'homme, ces os pourront-ils revivre? Ces morts spirituels peuvent-ils vivre? » Ézéchiel répondit, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Dieu s'adressa de nouveau au prophète en disant, « Prophétise sur ces os. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. » Israël savait qu'il avait complètement disparu en tant que nation. Il est encore désespérément divisé même aujourd'hui. Mais Dieu dit à Ézéchiel qu'il créerait une autre nation encore plus grande que le premier Israël qui ne cessait de pécher. Le second Israël consisterait en un peuple venant de chaque nation du monde, un reste de Juifs qui sont élus et une multitude de gentils greffés à la vraie vigne. Il serait la grande et sainte nation de ceux qui sont ressuscités de la vie spirituellement morte causée par le péché pour atteindre la vie éternelle. Il ne serait jamais divisé contre Dieu. Ceci fut la première résurrection à travers le pouvoir des résurrections du Christ. En 1964, avant ma première résurrection à travers le Christ, moi, Bernie Hoffman, aussi connu sous le nom de Tony Alamo, j'étais bien connu comme pécheur et impie et j'étais totalement dépourvu de toute connaissance de Dieu. Je n'avais aucune idée que Dieu existait. Les paroles de Dieu étaient pour moi des fables et des mythes et je n'arrivais pas à comprendre comment les gens pouvaient croire en Dieu ou à son Fils. Je ne pouvais pas croire ceux qui disaient avoir foi en Dieu parce que je savais qu'ils étaient des hypocrites. Ils péchaient autant ou davantage que moi. Je le sais car j'étais souvent en leur compagnie. Nous étions tous une bande d'ossements morts, desséchés. Je me fâchais quand on essayait de me convertir au christianisme parce que pour moi, la Bible n'était qu'une perte de temps. La vie que je menais ne me laissait aucun loisir pour des jeux ou des contes de fées. Dans l'industrie du marketing, j'étais considéré comme le numéro un. J'étais responsable du succès de la carrière de nombreux chanteurs et acteurs célèbres à travers le monde, ainsi que du succès de la publicité de plusieurs produits domestiques très connus. Dans mon pire cauchemar, je me voyais converti et distribuant des pamphlets sur Jésus au coin des rues, vivant dans un établissement de mission situé dans le bas quartier, à prêcher l'évangile et à organiser la distribution de repas pour nourrir les affamés. Au milieu des années 60, le monde ne m'apparaissait pas en très bon état. Je n'aimais pas les drogues ni les gens sales à la morale ordurière. Et j'ai détesté l'effet du mouvement hippie sur Hollywood, sur le long du Sunset Strip et sur le monde. Quant à moi, je n'étais pas un saint. Le péché que les gens commettaient ne me dérangeait pas du moment qu'ils ne le commettaient pas devant les familles avec enfants. Pour moi, le monde était fini, mort, sec, odieux, éligible. Rien n'avait plus de valeur. Je crois que les autres à travers le monde le savaient autant que moi et s'adonnaient aux drogues pour essayer d'échapper à cette réalité. Les églises étaient hypocrites. Tout le monde semblait le savoir également. le monde entier était mort dans ses péchés et ses offenses. Le monde était une énorme vallée doucement desséchée, tout comme ce qu'avait vu Ézéchiel. J'ai rencontré Jésus dans un bureau de Beverly Hills d'une manière très surnaturelle. Personne ne peut s'imaginer à quel point je fus terrifié, mais également heureux quand Dieu me prouva que lui-même et son Fils existaient vraiment. Ce fut avec une vive émotion que je fis l'expérience de son puissant Esprit Saint et que j'entendis sa voix puissante envahir chaque partie de mon corps comme si j'étais un filtre à travers lequel ses paroles allaient et venaient. Sa présence était glorieuse et chaleureuse. Son esprit se posa pesamment sur moi, telle la forte poigne de la main de Dieu. Et ses paroles me dirent, « Lève-toi, parle du Seigneur Jésus-Christ aux gens dans cette pièce, et dis-leur qu'il reviendra de nouveau sur terre où tu mourras certainement. » Quand son esprit vint dans le bureau et se posa sur moi, il me fit donner de ressentir son inexprimable, incroyable intelligence. Il était chaque atome et molécule. Il était l'air. Il savait tout du passé et tout ce qui allait arriver dans le futur. J'étais mal à l'aise car je savais qu'il savait tout ce que j'avais fait. Puis il me montra que le ciel et l'enfer existent vraiment. Je savais dans lesquels de deux j'aboutirais si je n'obéissais pas à sa demande. Et ce n'était pas au ciel. Même si cela me terrifiait, il était aussi merveilleux de savoir que Dieu était vrai et vivant et était tout ce que les prophètes et les apôtres ont dit qu'il était. Il n'avait aucunement changé depuis le jour où il créa le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Je sus immédiatement que je le craindrai, l'admirerai, le respecterai, l'aimerai et le servirai toujours. Je sus que j'étais déterminé à vivre, être persécuté et mourir pour lui et que je le ferai de plein gré et en toute joie. Après que Dieu m'eut laissé sortir de ce bureau, j'ai commencé à lui demander « Que veux-tu que je fasse? Je ferai tout ce que tu me demanderas. » Je n'obtins aucune réponse. Alors je pensais qu'il voulait que j'aille à l'église. Je pensais que la plus grande serait la meilleure et j'y allais donc et ne les trouvais pas. J'ai visité d'autres églises mais ils ne s'y trouvaient pas non plus. Puis je lus des livres dont la couverture affichait des photos d'hommes qui avaient l'air sages et pieux, avec de longues barbes et revêtus d'habits religieux. Mais je savais que le livre avait tort, car il disait qu'il ne fallait pas craindre Dieu, que Dieu ne menace pas les gens et qu'on peut pécher sans aller en enfer. Je ne me préoccupais nullement d'un tel Dieu. Ce qui me préoccupait était de découvrir le Dieu qui m'avait menacé, le Dieu qui m'avait montré le ciel et l'enfer et qui me fit faire ce qu'aucun autre n'aurait pu m'obliger à faire, prêcher sur Jésus. Je n'avais jamais pensé que la vérité pouvait se trouver dans la Bible, parce que la Bible se trouve partout. Quels que furent le courant et les engouements du public, je sentais qu'il ne pouvait pas être judicieux puisque je croyais que la majorité des gens étaient stupides. Je me mis finalement à la lecture de la Bible et y trouvai le plan du salut ainsi que les instructions pour atteindre la vie éternelle qui disait comment croître dans le Christ et devenir spirituellement un gagnant majeur d'âmes en son nom. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai senti le même pouvoir de Dieu se posant sur moi que j'avais ressenti dans ce bureau de Beverly Hills. Dieu me montra alors d'autres visions du ciel et de l'enfer. J'implorai Dieu, « Seigneur, ne m'envoie pas en enfer !» Je vis ensuite le ciel et ressentis sa paix. Malgré que je fus spirituellement aveugle, nu et inférieur, je dis à Dieu que j'accepterai de demeurer aveugle, nu et insignifiant si je pouvais seulement ressentir pour toujours cette paix céleste. Je vis l'enfer une fois de plus et implorai Dieu à nouveau de m'accorder sa pitié et son pardon. Puis le pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit entra dans mon corps mortel par ma foi en Jésus et dans le sang qu'il versa pour moi, ainsi que par ma foi dans les paroles de Dieu que j'entendis et auxquelles j'obéis. J'ai senti chacun de mes péchés que j'avais commis se dégager de mon âme. Je me sentis propre et pur. Quelque chose de merveilleux m'était arrivé et avait été accompli en moi et pour moi par le Christ Jésus, le Dieu Saint d'Israël. Je te suis heureux d'être libéré du péché et d'avoir ce nouveau pouvoir qui m'empêchait des péchés que je voulais en parler au monde entier afin que tous puissent également le connaître et posséder la vie éternelle. Même après plus de 42 ans dans le ministère du Christ, je sens la moelle spirituelle se déverser du haut du ciel dans ces eaux jadis si desséchées chaque fois que je lis la Bible. La parole de Dieu a posé des muscles spirituels autour de ces eaux autrefois desséchées, les recouvrant de la chair et de la peau d'une armure spirituelle. Chaque parole de Dieu a greffé davantage le Christ dans mon cœur. Je peux encore sentir chaque parole de Dieu respirer le souffle de l'Esprit Saint à mon âme, me donnant le pouvoir de rester debout et d'éteindre toutes les flèches ardentes que Satan m'a envoyées au fil des ans. Je sais davantage chaque jour que nous sommes plus que vainqueurs dans le Christ Jésus et que nous sommes accomplis en lui. Je sais également à quel point il importe d'observer chaque parole de Jésus qui dit, quelques instants avant son ascension au ciel dans un nuage, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez à chaque ossement desséché, à ceux qui sont morts spirituellement, afin qu'ils puissent écouter la parole de l'Éternel. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous êtes comme moi et préféreriez ne pas être condamné, mais plutôt être sauvé, répétez cette prière après moi et dites-la de tout votre cœur. Mon Seigneur et mon Dieu, aie pitié de mon âme de pécheur. Je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort sur la croix et a versé son sang précieux pour le pardon de tous mes péchés. Je crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts par le pouvoir du Saint-Esprit et qu'il est assis à la droite de Dieu en ce moment même et qu'il écoute la confession de mes péchés et cette prière. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à y entrer, Seigneur Jésus. Lave-moi de tous mes péchés dans le sang précieux que tu as versé pour moi sur la croix du Calvaire. Tu ne me rejetteras pas, Seigneur Jésus. Tu me pardonneras mes péchés et sauveras mon âme. Je le sais car ta parole, la Bible, le dit. Ta parole dit que tu ne rejetteras personne, moi y compris. Donc je sais que tu m'as entendu et je sais que tu m'as répondu et je sais que je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, d'avoir sauvé mon âme. Et je continuerai à te montrer ma reconnaissance en faisant ce que tu me commandes
et je ne pécherai plus.
Maintenant que vous êtes sauvés, Jésus vous commande d'être baptisé en étant complètement immergé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Étudiez diligemment la Bible, Louis II, et pratiquez ce qu'elle enseigne jusqu'au jour de votre mort. Le Seigneur veut que vous parliez aux autres de votre salut. Marc chapitre 16, verset 15. Vous pouvez devenir un distributeur de publications évangéliques du pasteur Tony Alamo. Nous vous enverrons des publications gratuitement. Pour plus d'informations, appelez-nous ou envoyez-nous un email. Prière de passer ce message à quelqu'un d'autre. Si vous voulez que le monde soit sauvé, comme le commande Jésus, alors ne dérobez pas Dieu de ses dîmes et offrandes. Dieu dit, « Un homme trompe-t-il Dieu ? » Car vous me trompez et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé ?» Dans le dîme et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière, et ce monde entier. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, une dîme ou le 10% de votre revenu brut, afin qu'il y ait de la nourriture, nourriture spirituelle dans ma maison, âme sauvée. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Malachie, chapitre 3, versets 8 à 12. Veuillez nous contacter pour plus d'informations ou pour des articles d'autres sujets qui peuvent vous intéresser.